France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, je reçois Stilto. Avant d'être chanteuse, elle a longtemps raconté sa vie face caméra. Sur internet d'abord, où toute une génération l'a vu grandir, mais derrière cette parole très spontanée et directe, il y avait un rêve presque enfoui, celui de chanter. Ce rêve, elle a fini par le prendre au sérieux, d'abord avec des reprises, puis avec ses propres chansons. L'an dernier, son premier album, Filacrimal, marquait les esprits, porté notamment par Faut que tu m'aimes, morceau qui a beaucoup touché, parce qu'il parlait à la fois d'amour, de dépendance affective, d'image de soi et du regard des autres. Depuis, il y a eu la scène, une tournée, l'Olympia, une nomination aux Victoires de la musique, les Enfoirés aussi. Bref, Stilto s'est installée dans le paysage musical francophone. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau projet, un EP qui s'appelle La fille qui a plus mal, un titre qui semble répondre au précédent, presque le corriger ou en tout cas l'emmener ailleurs. On va évidemment discuter de tout ça ce soir à La Régulière avec Stilto. C'est tout de suite jusque 23h.
France Inter. À La Régulière. Midi Maizy.
J'avais la dalle, j'avais du cœur, je chantais seule durant des heures. J'avais pas besoin que quelqu'un m'appelle, combien c'est dur. J'avais pas de mal avec mes sœurs, aucun battle, pas de jeu d'acteur. Puis tu t'imposes avec ces lois qui nous murmurent. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème.
C'est un extrait du morceau Problème, problème, donc oui. Présent sur ce dernier EP. Comment ça va, Stilto?
Bah ça va, très bien, merci, ouais. Et toi?
Bah très bien, je suis content que tu sois là.
Moi aussi.
On est là pour parler donc de cette actualité, mais c'est vrai que je pense que la première question, c'est qu'on a un peu le sentiment que cet EP répond à l'album qui est sorti l'année dernière, dans le titre déjà, ensuite sûrement dans les thèmes. Est-ce que c'est comme ça que t'as construit en tout cas un peu ce projet, comme une réponse, ou en tout cas une suite assez proche à ce premier album?
En fait, c'est vraiment, à la base, ça partait juste des paroles d'une chanson, donc de la dernière chanson du projet qui s'appelle du coup « La fille qui a plus mal ». Où je fais un peu le point sur tout ce qui s'est passé pendant cette dernière année, ouais. Depuis la sortie de l'album, etc. Et dans les paroles, je dis qu'en gros, ça va mieux, mais comment je vais faire? Parce que mon fond de commerce, c'est le fait de pleurer tout le temps et d'en parler. Et un peu en blague, à la base, je dis « Prochain album, c'est comment? La fille qui a plus mal ?» Et après, j'étais en mode « Mais je crois que j'adore. » Et en vrai, ça répond bien aussi à cette première partie de ma petite carrière musicale, tu vois, où j'aimais bien mettre l'accent sur le fait que je pleure tout le temps, mais en fait, j'ai aussi envie de montrer aux gens que c'est pas que ça. Bon, c'est une grosse part de ma personnalité, mais j'ai plein d'autres avantages et je trouvais ça cool et un peu drôle aussi. Bon, juste, il y a une faute. Normalement, c'est la fille qui n'a plus mal. J'ai enlevé le N parce que je trouvais que ça sonnait pas bien.
Moi, j'ai eu l'impression que c'était même aussi. Alors, peut-être que du coup, je suis allé trop loin.
Qui mais a
que ça
plus permet, mal
bah, en fait, que ça pouvait du coup avoir une double interprétation. Soit qui a plus mal du tout, soit qui a plus mal qu'avant et qu'en fait, ça laissait un peu place au mystère quelque part. Mais en fait, non.
Bah, moi, c'est vraiment qui n'a plus mal. Okay. Mais c'est vrai qu'avec mon équipe, on s'est dit en vrai, c'est un peu marrant aussi parce que les gens, soit ils vont se dire ah, ok, elle va mieux, soit ils vont se dire. Oh, ah ouais, ça va toujours pas, quoi, tu vois. Je trouvais ça cool de laisser planer le doute.
Mais vu que ça va mieux, du coup, qu'est-ce que ce premier album et cette année a changé, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été guéries, soignées, peut-être par juste le fait de sortir cet album, peut-être aussi d'aller à la rencontre des gens? Alors, tu fais de la musique depuis longtemps, mais est-ce que le fait de sortir vraiment Filacrimal, t'as l'impression que ça a concrétisé quelque chose ou mis fin à certaines choses?
Je pense que surtout j'ai appris en un an à avoir vraiment confiance en moi. Il était temps parce que j'ai 28 ans, mais tu vois surtout dans...
C'est le combat d'une vie parfois.
C'est le combat d'une vie et surtout vu que c'était assez nouveau tout ça pour moi, la musique, tout ce qui gravite autour de cette industrie musicale. En vrai, moi j'y connaissais rien, tu vois. Et je crois qu'en sortant cet album et en sortant des chansons que j'aimais, j'ai pris confiance en moi. Et après évidemment, la scène ça a beaucoup joué dans ma prise de confiance et puis le studio, les rencontres avec d'autres artistes où je me suis dit. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que dans 2 ans, je reviendrai et je te dirai, non, mais je disais n'importe quoi, mais j'ai l'impression de vraiment savoir où je vais et de m'affirmer plus en tant que femme aussi, tu vois. Et c'est pour ça, je crois que ça m'a fait du bien, tout ça.
Mais d'ailleurs, quand tu dis m'affirmer plus en tant que femme, je me suis posé la question parce que dans les titres des derniers projets, il y a le mot, c'est fille, c'est pas femme.
Ouais,
est-ce que c'était juste comme ça? Est-ce que tu dis que c'est un peu trop tôt pour.
Moi, j'ai un peu la peur de vieillir. Okay. Genre là, j'ai eu 28 ans hier et je suis...
Hier ?
Bon, ouais, j'ai un peu le
joyeux anniversaire.
Vrai. Merci.
On est vraiment... T'as même pas de cadeau, purée.
Ouais, vous êtes nuls. Non, je rigole. Non, ouais, je pense que j'ai un peu peur de vieillir et ça fait partie peut-être des petits trucs... je fais pas exprès, mais comme par hasard, je ne place pas ce genre de mots, femme. Ou
oui,
alors
oui.
Je dis jeune femme.
Ok.
Mais bon, ça c'est moi et moi-même.
Justement parce que... il y a ce... On parlait de la scène, etc. Et je crois que sur le EP, tu dis que tu aimerais faire l'Olympia, comme si tu l'avais jamais fait, comme si c'était la première fois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça représentait, justement, de remplir ces salles ? Parce qu'il y a l'Olympia, il y a le Zénith aussi. Et je pense que ça concrétise, on en parlera peut-être un petit peu après, mais comme je le disais en introduction, tu sais, on t'a connu, en tout cas, une partie des gens t'ont connu sur Internet en tant que youtubeuse. Et donc, il y a toujours ces questions... peut-être de légitimité, de crédibilité, de est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais remplir des salles. Toi, tu le fais, en l'occurrence. Je pense que tu as gagné aussi même le respect des pairs, tu sais, nomination victoire de la musique, ça vaut ce que ça vaut, mine de rien, ça reprend quelque chose. De voir les gens comme ça et ces salles remplies, est-ce que ça t'a permis aussi peut-être de gommer une forme de manque de confiance en soi, ou est-ce que ça rend les choses plus réelles, ce genre de moment?
Alors déjà, oui, bien sûr, au niveau confiance en moi, évidemment que ça te donne du courage et de la force. Quand j'ai commencé, avant de sortir l'album, j'avais fait La Cigale et l'Olympia à genre 4 mois d'intervalle.
Oui, d'intervalle, ouais.
Donc ça me donnait de la force et je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, je pense que parfois ça me donnait de la force aussi pour les mauvaises raisons, dans le sens où je me disais, bon bah là on va me prendre au sérieux parce que, tu vois, quand j'allais dans les médias ou autre et que la phrase d'accroche c'était « Elle a rempli l'Olympia avant un album », je me disais « Ok, cool, genre peut-être les gens vont me prendre au sérieux ». Maintenant j'ai compris que... En vrai, ça veut rien. Enfin, c'est évidemment, c'est génial et je suis trop reconnaissante d'avoir fait ces salles et de les faire encore, etc. Mais je pense que maintenant que j'ai plus confiance en ma musique, j'ai plus besoin de ça. Enfin, tu vois, si sur un prochain projet, je fais pas l'Olympia ou que
c'est
tu
pas
vois,
grave.
Genre, ouais, maintenant je suis tellement fière en vrai de ce nouveau projet, des nouvelles chansons que je pense que j'ai plus besoin de ça. Après, je vais pas te mentir, moi j'adore faire des concerts et quand c'est dans des belles salles, c'est encore plus génial. Surtout l'Olympia, c'est tellement mythique, c'est tellement bien.
Non, ce que tu as l'air de dire, c'est que ça ne représente pas une victoire en soi. C'est bien pour toi, mais la victoire elle est plus dans la musique que tu arrives à faire aujourd'hui, dans ce que tu arrives à écrire et à transmettre comme émotion.
Dans la musique et quand les gens. Enfin, tu vois, parfois moi je fais des salles. Je vais pas citer de salles, mais tu vois, dans d'autres villes, dans des salles moins mythiques que l'Olympia ou le Zénith, mais ce qui compte aussi, c'est pas tant que la salle soit remplie, c'est de voir que les gens. Ils vivent les chansons, tu vois, et qu'ils sont pas là juste parce que moi, j'étais heureuse de faire cette première tournée et j'aurais jamais pu sans les gens qui me suivent depuis des années parce qu'ils venaient aussi par curiosité pour me voir sur scène, parce qu'ils me suivent sur Internet, etc. Mais la plus grande des victoires, en tout cas dans ma carrière musicale, c'est pas quand les gens ils me voient juste parce qu'ils me suivent depuis des années.
Exactement,
c'est
parce que t'es connu, parce qu'ils t'aiment pour des raisons parfois autres que musicales.
Ouais,
oui, ça
c'est
arrive.
Trop cool. Mais maintenant que je suis fière de mes musiques et tout, la plus grande des victoires, c'est quand les gens ils les chantent et que je vois qu'il y a des gens qui pleurent quand je chante une des chansons. Ça veut dire que ça leur ramène à quelque chose de propre à leur histoire, tu vois.
Sur le EP, tu dis quelque chose que j'ai pas compris.
Oh non, arrête, ça me stresse à chaque fois, ça.
Non, tu dis juste que t'aimes pas les chansons de Rihanna.
Oh non, non, ne me mets pas sur ce sujet. Arrête, c'est mon plus grand drame. Non, mais tu sais
pas. Il faut qu'on en parle.
Mais oui, mais en fait, je suis ravie que t'en parles.
Parce que tout le monde aime Rihanna, normalement.
Il faut qu'on crève l'abcès, il faut qu'on en parle. Non, mais attends, tu sais quoi? Je regarde ma manageuse parce que sache qu'à un moment, j'ai paniqué, j'ai dit est-ce que les vinyles sont partis à l'usine? Je voulais changer.
Ah ouais?
J'étais en mode pourquoi j'ai menti comme ça?
Parce que c'est vraiment, je trouvais ça honnête en fait.
Mais j'adore Rihanna, c'est ça, mais je suis trop folle. Genre. En fait, je sais ce qui s'est passé. Je voulais, donc c'est une chanson qui s'appelle Désolée, pas Désolée,
où
je fais un peu.
Je
fais un peu une liste de toutes les choses dont je suis désolée. Sachant qu'à la base, je voulais faire une chanson où j'arrête de m'excuser, mais j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, prenons le taureau par les cornes, on va dire toutes les raisons pour lesquelles tu t'excuses tout le temps. Et moi, j'écoute, donc peut-être que tu as compris, je suis très très fan de Ben Mazué.
Oui.
Et je suis un peu lourde avec ça.
Tu le cites dans le morceau d'ailleurs, dans ce même morceau.
Voilà, et je voulais le citer dans le morceau parce que je voulais faire un peu un pied de nez même à mon équipe qui commence à me dire, bon, arrête de parler de lui tout le temps. C'est bon, genre, on a compris que c'était une inspiration. Même lui, quand je lui ai fait écouter Désolé, pas désolé, Ben, il était en mode, mais t'es sûr? Je suis en mode, oui, je t'adore, je n'arrêterai pas, tu vois. Ouais. Donc, je voulais en face mettre un ou une autre artiste et il me fallait une rime en A, d'accord? Et au début, on commence de pas aimer les films d'auteur, les chansons de Barbara. Et en fait, là, ça me fait chier parce que je me dis, mais moi, j'aime bien Barbara.
Ouais.
Et en fait, tu sais quoi? Je me suis dit, j'ai pas envie, c'est horrible.
Il fallait quelque chose qui aille aussi avec le côté film d'auteur. Tu pouvais pas dire Chantal Goya.
Ouais, c'est ça.
Avec tout le respect que j'ai pour Chantal Goya, mais c'est moins un film d'auteur
avec
dans l'esprit.
Avec tout le respect.
Voilà, voilà.
Mais en fait, je me disais, justement, je me suis dit, j'ai pas envie de dire et film d'auteur et Barbara parce que, Bon, j'ai pas envie d'être non plus cliché. Enfin, tu vois, c'est pas vrai. J'aime bien Barbara. Il y a une chanson dans mon EP où l'inspi, c'était un peu Barbara, donc je trouvais ça bizarre. Donc je cherche en Shakira. Je cherche. Et ça se finit sur Rihanna. Et en fait, j'ai fixé Rihanna parce que je me suis dit, personne va mal le prendre. Elle a rien sorti depuis des années, donc c'est un peu drôle.
Ok.
Non. Les gens sont vexés.
Ah, t'as eu des retours, c'est vrai.
J'ai eu quelques messages en mode, je t'adore, ma reine, mais toi-même, tu as sorti une reprise de Rihanna il y a X années, ce qui est vrai.
Ouais.
Okay. Mais bon, du coup, ça va, c'est un peu drôle. Mais franchement, je te jure, avant de sortir le projet, j'étais en mode, bah, c'est pas vrai. Je savais pas quoi mettre, mais j'étais en mode, oh non, ma pauvre Rihanna. Et en plus, là, dernièrement, rien à voir avec moi, bien sûr, elle s'est fait genre tirer dessus. T'as vu ?
Ah, j'ai même pas vu ça.
T'as pas vu ?
Ah non.
Enfin, quelqu'un est allé devant sa maison à Los Angeles et a voulu tirer dessus. Et là, j'étais en mode. Donc ça fait beaucoup pour la pauvre Rihanna.
Bien sûr, évidemment. C'est trop. Juste, alors, tu parles souvent lui, mais comme tu viens de le mentionner, Ben Mazu, effectivement, tu le cites sur ce morceau et on sait que c'est quelqu'un qui t'inspire depuis longtemps. Le fait de le rencontrer aujourd'hui, je sais pas si tu le comptes parmi tes amis, mais en tout cas comme un collègue avec qui tu échanges, est-ce que ça aussi, ça permet. C'est le genre de moment où tu te dis, ouais, c'est réel et je suis une artiste. Enfin, t'es une artiste depuis longtemps, mais tu sais, il y a toujours parfois un syndrome, on peut se sentir un peu le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que le fait d'être, entre guillemets, validé, tu sais, même, j'imagine que lui, il voit même pas les choses comme ça, juste il te voit comme une autre chanteuse, est-ce que ça fait du bien, ça et est-ce que c'est pas bizarre, parfois, de parler, de collaborer avec des gens qu'on a parfois un peu, tu sais, apprécié avant de les connaître? Des fois, ça peut être étrange comme relation.
Ouais, complètement. Bah, en vrai, avec Ben, ça a quand même mis du temps parce que maintenant, aujourd'hui, on est très proches, je dirais depuis un an, mais on se connaît depuis la sortie de ma première reprise, qui était il y a presque 4 ans, je pense, 3 ans. Et au début, c'était une relation très cordiale, bien sûr, mais moi, j'étais toujours fan de lui, mais
ouais.
On n'était pas aussi proches. Et après, en fait, on est devenus amis, en vrai, quand on a commencé à faire du studio ensemble, etc. Mais c'est vrai que ce truc de légitimité, c'était particulier avec Ben, parce que moi, vu que je suis très fan de son travail et que, enfin, moi, je trouve qu'il y a personne, c'est mon avis, en France qui écrit aussi bien que lui, en tout cas, qui des paroles qui me touchent autant. Faire du studio avec lui, mais j'étais pétrifiée. Enfin, j'avais presque un peu honte, tu vois, quand on écrivait ensemble. En tout cas, quand nous, on a fait notre feat Changer de vie, il a dit, vas-y, on se sépare, on va chacun de son côté et dans 30 minutes, on se rejoint, on signe nos trucs. Moi, j'étais en mode, bah non.
Qu'est-ce que je vais faire en 30 minutes?
Et je pense que j'ai passé plus de temps à transpirer, à me dire putain, comment je vais faire qu'à vraiment être libre, écrire et tout. Et il m'a fallu du temps pour me débloquer parce qu'en fait, après, on se lisait les trucs et je me disais, mais je me sentais un peu ridicule, tu vois.
Alors que non,
pas du tout. Et puis, ben, j'écris comme j'écris et Ben Mazu écrit comme il écrit, tu vois. Et la force de la chanson, c'est aussi de mettre nos deux écritures
bien
en
sûr.
Commun. Mais ouais, c'était impressionnant. Maintenant, ça va mieux. Franchement, maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que longtemps, globalement, dès que je rencontrais juste quelqu'un, même que j'avais vu à la télé, en fait, même si c'était pas quelqu'un dont j'étais fan, j'étais un peu gênée. J'étais très vite impressionnée, en fait. Maintenant, ça va mieux.
Maintenant, ça y est,
tu
remplis des zéniths.
Ouais, c'est bon.
Voilà, c'est
la
bon.
Routine.
Bon, je pense qu'on écoute un extrait de l'EP La fille qui a plus mal. On va s'écouter le morceau Skincare.
Allez.
On l'écoute, c'est
bon.
Allez, let's go. Stilto, Skincare tout de suite dans La Régulière.
Elle nettoie son visage pour effacer ses erreurs et ses peurs ou tous ses excès. Les flacons qui débordent comme ses chagrins. Elle garde tout pour elle, elle se démaquille bien. Jouer à être parfaite et suivre la routine, toutes les recettes. Cocher bien toutes les cases insatisfaites, mais ça tient qu'à un fil. Skincare, skincare, elle a besoin de toi, elle espère que tu vas la sauver des enfers. Elle va y passer tout son salaire. Skincare, skincare, est-ce que tu peux masquer sa colère? Pourquoi tu laisses comme un goût amer? Tu l'abandonnes mais elle persévère. Elle prend soin de sa peau plus que d'elle-même. À manger souvent mal, elle se sent pas très saine. Elle écoute des podcasts et prend des notes pour bien suivre les conseils en autopilote. Jouer à être parfaite, elle contrôle pas grand-chose. Ça va, t'inquiète. Encore un dernier verre, une cigarette, mais ça tient qu'à un fil. Skincare, skincare, elle a besoin de toi.
C'était le morceau Skincare, donc notre invité ce soir, Stilto, qui vient de sortir le EP La fille qui a plus mal.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Le prends pas mal, j'aime pas ton mec, j'aime pas les mal alpha. J'aime pas tes sons, j'aime pas tes mots. J't'aime pas.
Stilto, donc ça c'est un extrait d'un morceau qu'on a déjà un peu évoqué, Désolé, pas désolé. Et t'as raconté, tu l'as dit déjà en début de, enfin dans le début de notre discussion, que tu voulais faire un morceau assez badass, ouais. Voilà, et que c'est un morceau finalement où tu te...
C'est un morceau de Vicos encore.
De victime, hein, tu te remets à... Ouais. Tu penses que, exactement, dans, c'est un vrai morceau de pop, pour le coup. Tu penses que ça devient d'où ce besoin, ce réflexe de t'excuser?
Ben, je sais pas, franchement, c'est naturel, c'est comme ça tout le temps chez moi. Et j'en ai parlé un peu sur Insta quand j'ai parlé de la sortie de cette chanson. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient parlé à leur psy parce qu'ils étaient pareils. Et que tu t'excusais trop quand t'avais pas assez une bonne estime de toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en mode pardon. Et du coup, bah, peut-être que ça vient de ça, malheureusement.
Mais là, c'est un vrai sujet dans ta musique, ça. L'estime,
c'est un vrai sujet,
soir,
non,
en fait.
Mais c'est relou. Hein. Mais franchement, dans ma vie en général, c'est un vrai sujet. Mais je travaille de ouf sur ça. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, justement, en fait, c'était après le succès de Faut que tu m'aimes, enfin le succès, le fait qu'elle ait été un peu connue, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Je me disais, bah justement, je vais montrer une autre facette de moi. Je veux un truc un peu, ce que je disais, badass. Je déteste le mot badass, mais ça, c'est
parlant. On va dire forte.
Ouais, voilà, forte.
Comme ça,
et je voulais que ça soit. J'avais en rêve vraiment, je voulais une musique pop, genre Sabrina Carpenter, tu vois, vraiment assumée. Et donc on avait la prod et tout, et je trouvais rien. En même temps, je pense que c'est aussi un côté de ma personnalité qui est cool, c'est que je pense avoir beaucoup de second degré et que je suis capable de faire une chanson où je dis ce genre de truc, que je suis désolée pour tout et j'espère un jour faire une réponse à cette chanson où je suis plus désolée, tu vois, pourquoi pas.
J'ai l'impression que dans ton écriture, il y a toujours cette histoire de second degré, justement,
ouais,
que même parfois tu pars des petits détails de la vie, du quotidien, plus ou moins drôles, pour en faire des chansons parfois plus profondes, mais que c'est aussi, ça fait partie de ton écriture, ça.
Ouais, j'adore, et je pense aussi que c'est une manière de me protéger. Parce que, en fait, si moi je fais des blagues sur moi, si moi je m'autocritique aussi, tu vois, pour la sortie du projet, j'ai fait une vidéo avec Franck Dubosc, où il joue un psy qui me déteste, et c'est moi qui ai écrit l'échange, en gros. Et dedans, j'ai mis que le Franck Dubosc, enfin, le psy, du coup, me dit que j'ai pas une grande voix, et que si je remplis des salles, c'est que parce que j'ai des abonnés. Et en fait, il y a ce truc qui est aussi dans l'écriture, dans mes musiques, du coup, qu'on retrouve.
Vu que tu le dis, on peut pas te le dire, en fait.
Ouais. En fait, je le sais, donc pas besoin d'y aller, parce que je prétends pas le contraire, tu vois.
C'est la technique d'Eminem dans 8 Mile, ça.
C'est vrai ?
T'as pas vu 8 Mile ?
Non, si, je l'ai, bah, le film.
À la fin, tu sais, c'est quand on sent dans le clash de fin.
Il s'autoclash,
du coup, comme ça, l'autre est mort, il a rien à lui dire, en fait.
Ah,
et
ouais.
Du coup, il gagne le...
C'était une trend.
Pardon pour le spoil,
moment.
Mais le film est vieux, c'est bon.
Oui, c'est vieux. À un moment, c'était une trend sur... Enfin, une trend... On disait pas ça pour les vidéos YouTube, mais une tendance en Amérique, les youtubeurs ils faisaient des je sais pas quoi challenge.
Ok.
Roast Me Challenge.
Ah, le roast, ouais, ok, d'accord.
Et ils faisaient des chansons alors qu'ils étaient pas chanteurs ou rappeurs, où ils s'auto-clashaient, mais sur des prods de ouf, c'était super stylé. C'était trop bien.
Justement, parce que tu disais que c'est un sujet, le fait de l'estime de soi, etc. Quand on a du succès, et même quand on reçoit de l'amour, comme c'est ton cas, depuis longtemps, mine de rien, de l'amour. Alors, qui peut être virtuel, hein, c'est de l'amour sur les réseaux, on en fait ce qu'on veut, mais mine de rien, ce sont des gens quand même qui te disent « Coucou ma reine », comme tu disais tout à l'heure, qui t'envoient de l'amour, qui sont fans de toi, tu sais. Est-ce que ça comble un peu ça, ou au contraire, ça peut créer justement de l'angoisse, l'amour d'inconnu quelque part, même s'il peut être sincère? Est-ce que ça répare, ou au contraire, ça peut creuser un peu ce fossé-là?
Je pense que ça dépend, j'imagine, de la fanbase que t'as et du niveau de star que t'as, tu vois. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas si je vais percer plus, mais j'ai l'impression que ça va. Enfin, tu vois, je marche dans la rue, tout va très bien. Enfin, je suis pas du tout...
Après, en tout cas, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est 800 000 personnes. Enfin, c'est beaucoup.
Ouais.
Après, comment ça se concrétise au quotidien, je sais pas, mais en tout cas...
Mais en fait, je sais pas, moi, souvent... Et parfois, je me demande, est-ce que si un jour je suis plus connue, il faut que je fasse attention avec la manière dont je gère mon public. C'est que je suis très, très proche... C'est surtout des filles, et en fait j'ai l'impression, vu que moi ça fait 10 ans, et que même si avec la chanson il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, souvent quand même c'est des jeunes femmes de mon âge, parfois il y a des plus jeunes maintenant avec la chanson, mais ou des plus vieux aussi, c'est pas des grands-parents, c'est adorable en concert. Du coup, je peux croiser des filles qui me suivent, qui écoutent mes chansons, je vais pas en boîte maintenant, mais dans des bars où tu vois, et j'ai des conversations avec elles qui sont très, c'est très normal, c'est jamais... J'ai jamais l'impression qu'il y a un espèce
rapport de fan.
Que j'ai des amis qui sont chanteuses ou chanteurs et je peux remarquer un peu ça avec leur public ou même dans la manière dont le public les regarde en mode oh mon Dieu. Moi c'est évidemment ils sont contents de me voir mais c'est normal.
Peut-être parce qu'ils ont l'impression de te connaître Justin parce qu'ils te voient depuis longtemps.
Ouais,
c'est pour
je pense que c'est lié en vrai parce que tu vois au Zénith je suis sortie parce qu'il faisait hyper froid et il y avait des gens qui étaient là depuis genre 8 heures donc quand même tu te déplaces pour le concert de quelqu'un qui est à 21h et tu viens à 8h et il fait froid, c'était le 5 décembre. Et du coup, je viens devant pour les voir vers 11h et tu vois, le monsieur de la sécu, il était étonné parce qu'il disait, mais c'est marrant, vous parlez 20 minutes et puis il n'y en a aucun qui vous demande une photo. Tu vois, et genre, ils sont restés assis, enfin, tu sais, on parle. C'est très normal, en fait.
Ok.
Donc, je sais pas, moi, je pense que ça me fait du bien. En même temps, franchement, je connais ça depuis que j'ai 16 ans, donc j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie.
Oui, ta vie d'adulte, en tout cas, bien sûr, t'as grandi comme
d'avoir des gens sympas. Après, attention, il y a aussi des gens méchants, mais c'est vrai que dans la rue, en fait...
Oui, tu les vois pas, ceux-là.
Non, ils viennent rarement te dire « je te déteste » et partir, tu vois.
Non, c'est sous anonymat, sur les réseaux, ça.
Oui, c'est ça.
Évidemment, tu parlais que t'avais des amis chanteurs-chanteuses. Il y a une chanson en collaboration avec Yoa et Solan sur le projet. Elle s'appelle « Solitude », on peut en écouter un extrait.
Toujours seul, un chat.
Donc je disais, vous êtes à trois sur ce morceau avec Yoa et Solan. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une forme, peut-être que c'est un fantasme de journaliste, mais une forme de nouvelle génération, tu sais, de chanteurs et de chanteuses, on va dire françaises, qui oscillent entre une forme de nouvelle pop, de tradition aussi de chansons françaises, on sent que c'est en vous. Moi j'ai l'impression, en tout cas d'où je suis, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de plus en plus de nouvelles voix et que vous avez l'air aussi de, comme ce morceau en était un exemple, de collaborer ensemble. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que cette scène-là, elle existe?
Moi, je pense que oui. C'est vrai que depuis les victoires, surtout, où avec Yoa et Solan, on se donnait beaucoup de force chacune dans nos interviews respectives. On parlait toujours des deux autres. Et en fait, il y a eu à ce moment-là des journalistes ou même moi, des gens de mon équipe qui ont dit « Putain, c'est assez... pas impressionnant, mais c'est assez nouveau, ce truc d'autant se citer et que ça soit pas juste un peu en loge copine et... »
Oui,
et
il peut y avoir de la compétition.
Ouais, c'est ça. Donc... Je pense que c'est vrai. Après, moi, j'étais pas là avant, mais c'est vrai que je le ressens. Et on a, en fait, je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup toutes entre nous.
Ouais.
Que ce soit moi, Yoa, Solan, mais je suis aussi. Franchement, je crois que je suis copine avec beaucoup de filles. Et pour de vrai, tu vois, genre Elena, Marguerite, Louane, même Maëlle. J'ai trop peur d'oublier des gens à chaque fois, donc j'arrête de citer.
Mais, je t'ai rien demandé. Je t'ai mis tout seul dedans.
mais tu vois, il y a ce truc où on en parle et je pense que c'est là la force de cette nouvelle génération, c'est de se dire, pour changer les choses, il ne faut pas juste les dénoncer, il faut aussi se faire un peu violence.
Ouais.
Et tu vois, quand j'ai proposé le feat aux filles, je leur ai dit... bon, je n'ai pas fait un argumentaire parce que c'était très naturel et en fait, on est tellement copines maintenant que c'était... Enfin, j'avais pas peur qu'elles disent non, tu vois, mais je leur ai un peu dit, en fait, je trouverais ça cool que, justement, on ne s'arrête pas juste... Même si c'est déjà très bien aux interviews à se donner de la force. Et je disais, moi, mon exemple, c'est que je trouve... Après, je vais pas aller sur ce terrain-là avec toi parce que t'as une plus grosse culture niveau rap que moi. Mais je trouve que...
Oh, je sais pas.
Par exemple, les hommes dans le rap, ils font... Je trouve qu'il y a, de mon point de vue, il y a beaucoup de feats.
Oui, c'est vrai.
Entre
ça
mecs
existe
et
beaucoup,
tout. Et genre, si un rappeur a fait... Enfin, tu vois, ils peuvent en faire trois par mois, ils s'en foutent, il n'y a pas de strat, machin. Là où je trouve que... J'ai pas trop d'exemples, je pense qu'il y en a eu, bien sûr, mais de femmes dans la pop qui ont fait des duos... Tu vois, sans avoir peur de la compète, truc machin. Et je pense que c'est aussi même les... C'est tellement ancré que c'est même dans les équipes, dans les labels, que tu compares les projets quand ils sont féminins. Même sur les réseaux, je vois, moi, quand... Des fois, je tape mon nom, tu vois, sur Twitter, le truc que tout le monde fait, et on sait qu'il faut pas le faire, mais des fois, je le fais. Et les seules fois où je suis dans la sauce, entre guillemets, c'est que je suis comparée à un autre projet. Ça peut être n'importe qui.
C'est toujours un projet féminin,
Et c'est
évidemment.
Toujours un projet féminin de pop, tu vois. Voilà, je sais pas où je suis allée avec ma réponse.
Non, mais moi je comprends. C'est que je me souviens d'une interview de Clara Luciani qui me racontait une interview, qui me disait voilà, tu pars 9 mois faire un enfant et on t'a oublié. C'est exactement, je reprends ces mots et en fait on te compare tout de suite à l'autre chanteuse qui, dans un registre plus ou moins proche du tien, ce qui n'est même pas forcément le cas, et en fait pour les médias t'es plus ou moins remplacé par elle. Donc il y a aussi, je pense, cette compétition là parfois, elle est orchestrée aussi par peut-être l'industrie.
Oui, bien sûr.
Là où des fois t'as l'impression qu'il y a la place pour. Plusieurs pop stars hommes, quand c'est une femme, il en faut une.
Oui,
enfin, il y a un peu
sûr.
Ce truc-là aussi qui a l'air d'être un peu plus compliqué aussi. Donc il y a peut-être, il y a évidemment de la place pour toutes les femmes chanteuses, mais des fois on a l'impression que l'industrie
en radio, en fait. On va te dire ben non, mais on vient de rentrer, voilà. Machin, tu vois. Mais c'est pour ça justement que je dis se faire violence, c'est enfin, je sais pas comment Claire Luciani, je rebondis sur ton exemple, comment elle réagit après, mais c'est justement quand tu te prends ça dans la tronche, parce que ça doit être horrible d'avoir le sentiment que machin veut te remplacer parce que t'as eu un enfant, enfin, quelle horreur, en 1600, tu vois. Et je pense que c'est se faire violence, c'est d'accueillir les nouveaux, les nouvelles. Enfin, moi, ça, c'est le début de ma carrière, mais j'ai envie d'être. Louane, elle est super pour ça, tu vois. Louane, elle est là depuis 10 ans. Et elle est au courant de toutes les nouvelles chanteuses, elle suit tout, et surtout elle donne de la force tout le temps. Ouais. Tu vois des interviews, elle cite toujours des noms que même moi je connais pas encore. Enfin, elle est hyper alerte sur ça, alors qu'elle pourrait, tu vois, être en mode oula, je veux garder ma place du top, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment imagine un mec de radio te dit ah ben il y a pas la place, le mettre un peu à sa place aussi. Et,
toi, quand t'as signé en label, etc., que tu connaissais pas ce milieu-là, est-ce que t'as eu, je crois que ça se passe bien, mais est-ce que t'as eu peur justement de l'industrie, de ce qu'elle aurait pu changer chez toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur quand t'es arrivé dans ce milieu-là, ou ça s'est fait assez facilement ?
En vrai, pas trop. Okay. Je pense que j'ai écouté l'interview que t'as fait avec Seb Lafrite.
Oui.
Seb, pardon.
Seb Lafrite, pardon. C'est historiquement Seb Lafrite, c'est pas très grave.
Et je pense que c'était un peu pareil, c'est que, enfin, je suis pas d'accord avec tout ce, enfin, je partage pas tout ce qu'il a dit.
T'as pas eu la même expérience que lui.
Ouais, j'ai pas les mêmes. Lui, en fait, il disait que avec son label, ça s'est un peu terminé parce que lui, j'ai pas envie de déformer ses propos, mais en gros, il disait que
il manquait de liberté, en tout cas.
Et qu'en une story, il pouvait gagner. Enfin, tu vois, ce qui est vrai. Donc, je pense que moi, j'ai eu la chance de pas me mettre la pression financièrement.
Ouais.
Pour mes débuts, et du coup j'ai mis 3 ans à faire un album en vrai.
T'avais ce luxe-là, et que tu pouvais te le permettre, donc de le faire bien, de le faire comme tu le voulais.
Et je pense que je suis arrivée un peu en... Enfin, c'était tellement logique pour moi que j'ai même pas pensé qu'on pourrait me presser, tu vois.
Okay.
J'étais juste en mode, ah trop cool, je suis signée. Et je pense que j'ai tellement véhiculé cette énergie-là qu'en fait, pour de vrai, ils m'ont vraiment pas mis la pression. Ils m'ont accompagnée. Et à la fin, c'est moi qui étais en mode, mais pitié, on peut le sortir cet album. Genre, ça y est, trouvez-moi une date. Genre, je veux plus les usines, les vinyles et tout. J'étais en mode, allez, ça y est. Mais non, franchement, ça se passe trop bien. Et pourtant, au début, je voulais trouver un petit label familial. MDR, je suis chez Columbia.
Division de Sony. Ouais.
C'est énorme, mais en fait, autour de toi, t'as un peu ta garde rapprochée.
Exactement. Je pense qu'on écoute un morceau, je crois, d'une pop star que tu aimes bien, c'est Harry Styles.
Ouais, bon.
Est-ce que t'as écouté son dernier album ?
Je suis en train, mais tu sais, il me faut au moins 8 écoutes.
Non mais très bien, mais moi je respecte ça, le fait d'avoir du... Il faut prendre le temps et pas... Ouais, très bien. Bon, en tout cas, je pense qu'on écoute là un single que tu connais, c'est Aperture, le premier single. On s'écoute ça tout de suite.
Cool.
Et juste après, ouais, bah oui. Tu sais que moi, c'est le premier morceau d'Harry Styles que j'aime vraiment.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est pas que j'aimais pas, c'est que j'avais un peu un a priori.
One Direction.
Je peux être un peu débile parfois. Et j'aime beaucoup ce morceau et j'aime beaucoup cet album.
Trop bien.
Que j'ai écouté. Voilà, Harry Styles, Aperture, dans la régulière. Let's go.
Drinks go straight to my knees.
C'était donc Harry Styles avec ce morceau extrait de son tout dernier album.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Voilà, alors là, on va dans l'atelier à Tétragon, donc je vous emmène avec moi, n'est-ce pas? Franchement, c'est trop cool, j'ai envie d'habiter ici à Disney et tout, c'est trop swag. Je crois que vous ne me voyez pas, je suis là, tout va bien.
Alors, Stilto, est-ce que tu as reconnu là ce qu'on vient d'entendre?
Bien sûr, c'est ma première vidéo YouTube qui est un vlog à Disney.
C'est ta première vidéo YouTube. J'ai regardé ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça super touchant de voir ça. Mais je te jure!
Swag, j'ai dit le mot
oui,
swag.
Oui, t'as dit swag, c'était il y a 12 ans, effectivement. C'est un mot qu'on emploie encore parfois.
Hein. Ça revient, donc, bah, ça revient, Justin Bieber, il l'a remis à la mode.
Exactement, très bon album, surtout la première partie. Bref, c'est pas le sujet. Justement, qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Parce que Mineur, ça fait aussi partie de toi. Oui. Depuis tout à l'heure, on parle du fait qu'il y a des gens qui te suivent depuis longtemps. Et c'est aussi une carrière, tu vois, il y a différentes étapes. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Est-ce que toi, tu pourrais aussi un jour reprendre une activité de youtubeuse comme ça, ou finalement c'est ce que tu fais sur Insta quelque part parfois, ou c'est loin de ta vision des choses aujourd'hui?
C'est pas du tout loin, en vrai je publie encore des vidéos YouTube, un peu moins bien sûr, parce que j'ai un peu moins le temps de faire le montage, etc.
J'ai l'impression que le focus c'est la musique quand même aujourd'hui, même dans ce que tu...
Pour cette période de ma vie c'est la musique le focus, parce que j'ai envie de tout donner et que j'ai envie d'avoir aucun regret quand, si un jour ça s'arrête, tu vois, j'ai vraiment envie de me dire j'ai été au bout de ce projet, parce que c'est ce qui me fait vibrer de ouf, et j'adore apprendre, et je sens que j'ai tellement à apprendre que j'ai envie de continuer. Mais j'adore aussi la création de contenu, et j'ai l'impression, en tout cas je pense que moi pour ma carrière, j'ai pas envie que l'un aille sans l'autre, j'ai envie que ma force ça soit aussi de mettre des images sur mon projet, et je me challenge tous les jours par rapport à ça. Tu vois, là en ce moment, ma réflexion c'est que je suis assez forte pour les blagues et tout, mais que j'ai envie que j'arrive à faire du contenu qui donne envie d'écouter mon projet artistiquement et pas juste parce que je suis un peu drôle et attachante, tu vois. Donc moi j'ai pas envie que l'un aille sans l'autre. Après oui, c'est quand même 90% de la musique en ce moment.
Ouais. Est-ce que cette transition elle est pas facile à effectuer? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Je pense notamment aux États-Unis, souvent quelqu'un qui est essayé, c'est Joji. Je sais pas si ça te parle.
Je connais pas.
Quelqu'un qui vient vraiment de la création Internet et qui maintenant est un artiste respecté, qui fait, c'est super bien. Joji, J-O-J, vraiment, je te conseille. Mais est-ce que toi, t'as eu des gens qui t'ont inspiré, ou en tout cas encouragé à faire ce mouvement-là, ou pas vraiment?
Non, pas trop.
Ouais.
Je connais des gens qui l'ont fait, mais c'était pas trop. J'espère oublier personne et pas avoir l'air hautaine, mais je crois pas. C'était pas des gens qui faisait le même style de musique que moi, ou le même type de contenu que moi.
Mais je pense à Mr. V, par exemple, qui l'a fait.
Ouais, Mr. V, mais je m'identifie ni... Enfin, j'adore le mec et ce qu'il fait et tout, mais ça me ressemble pas, que ce soit les vidéos ou la musique, tu vois, en fait, le même
bien
truc.
Sûr.
Seb, pareil. Bilal, lui, il a plus commencé en tant que... Enfin, il a commencé à The Voice et tout en chantant. Théodore, lui, il a pris le parti de tout supprimer, moi pas du tout, j'ai envie que ce soit aussi ma force. Donc en fait, j'avais pas trop d'exemples.
Et puis Théodore, c'est arrivé après toi, finalement.
Ouais, ça arrivait un peu après moi.
Avant,
ouais, il m'avait écrit en plus pour en parler. Mais j'avais pas trop l'exemple, mais mon exemple c'était, quand j'avais des petits coups de down où je me disais oh, je peux pas être les deux, je me sens jugée, alors qu'en vrai personne m'a fait ressentir quoi que ce soit. Je pense que c'est plus
toi,
mes a priori, tu vois, sur moi-même. Mon exemple préféré c'était, je sais plus, un jour quelqu'un m'a dit que Virginie Efira, avant d'être actrice, et elle est une grande actrice aujourd'hui, et super reconnue pour ça, elle était animatrice.
Moi je l'ai découverte comme ça, voilà. Je suis assez vieux pour ça.
Voilà, moi je connaissais pas, mais tu vois, du coup c'est un peu mon exemple préféré de me dire, mais regarde, toi tu la connais en tant que...
Bien sûr.
Et tu t'en fous de ce qu'elle a fait
oublié,
avant.
Tout à fait, on a complètement oublié qu'elle était animatrice, alors que c'est comme ça qu'elle, qu'elle a commencé publiquement.
Et aussi me dire que j'ai pas envie d'avoir honte de venir des réseaux. Au début, tu vois, aux Victoires de la Musique, quand on m'a annoncé, je crois qu'ils ont dit quelque chose comme... la créatrice de contenu et chanteuse. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'au dernier moment, avant de chanter, c'est un des derniers trucs que j'ai entendu et que j'étais en mode oh non, même aux Victoires. Et tu vois, après, je m'en suis voulu parce que j'étais en mode meuf, c'est juste ton parcours en fait. Enfin, c'est pas
ça
une insulte,
toi,
tu vois. C'est...
Ouais.
Et si toi, t'en es pas fier, c'est nul. Enfin, justement, moi, j'ai envie d'être fier de ça et je travaille sur ça parce que je kiffe mon projet en vrai.
Alors, on t'a aussi, quand t'as commencé en tout cas à nous montrer que t'étais une chanteuse aussi via des covers, t'as commencé à faire des reprises. Je pense qu'on écoute notamment une reprise de Orelsan que tu faisais là.
Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand elle
Bah, t'en as fait plusieurs, hein, évidemment. T'as repris d'ailleurs Dalida, que tu reprends encore même parfois, je crois, sur scène. Ben Mazu, évidemment, Angèle, Louane, Iseult. Quel plaisir tu trouvais là-dedans? Est-ce que tu le fais encore? Je crois que tu le fais encore, du coup, comme je viens de le dire, sur scène. Ça représente quoi, les covers, pour toi?
Les covers, au début, c'était un moyen de commencer à tâter le terrain, voir comment les gens recevaient le fait que je chante, comment est-ce qu'ils allaient écouter ma voix, est-ce qu'ils allaient aimer. Et en fait, le fait de faire des reprises, c'est génial, parce que tu te mouilles, mais pas trop. En fait, si les gens, ils aiment pas, bon, à la limite, tu le prends un peu moins personnellement que quand c'est toi qui as mis des tripes et que c'est ton texte et ta vie, tu vois. Et j'ai commencé avec des reprises sur Insta. Le format, c'était vraiment une minute, tu vois. Et je faisais des petits mini-clips. Je levais ma meilleure pote à 5h du matin pour aller filmer une cover d'Iseult au lever de soleil à Montmartre. Enfin, tu vois, c'était vraiment fait maison. C'était trop cool.
Est-ce que c'était là aussi que tu prenais conscience de ta voix, en tout cas, ou que tu disais...
Ouais, c'était les premières fois où je chantais. Ouais. Franchement, je n'osais pas... Avant, moi, je n'osais même pas chanter devant mon copain. À chaque fois, je disais, ouais, tourne-toi et tout, genre. Je suis hyper pudique. Bon, maintenant ça va mieux quand même, mais je suis assez pudique quand il s'agit de chanter. Et je découvrais aussi ma voix, et je la découvre encore. Et je vois à quel point ma voix elle a évolué rien quand j'écoute ça, alors que là c'était fait en studio aussi. Ouais. Enfin, c'était propre quand même. Et ouais, je pense que je me cachais un peu. Et j'adore encore les reprises, parce que je reprends des chansons emblématiques. Donc avant, en concert, je reprenais Parole de Dalida. Aussi parce que j'ai fait une tournée avant de sortir un album, et que là, je savais que les gens pouvaient chanter, et que je voulais quand même qu'il y ait des gens qui chantent à un moment. Et puis maintenant, je reprends Ta meilleure amie de Laurie. Je vais dans le public, et ça, c'est mon petit kiff. C'est pour la petite stilto que je le fais. Et
c'était ta pop star un peu.
C'était évidemment ma pop star, comme je crois vraiment toute ma génération qui écoutait de la pop, en tout cas. Et je vois dans les yeux des jeunes femmes dans le public,
ça,
il y en a qui se traînent dans les bras. Enfin, tu vois, c'est un moment qui est tellement cool, et on le reprend en guitare-voix, hyper simple, c'est trop bien.
Alors, tu n'es pas la seule à avoir commencé avec des covers.
Ouais.
Je propose qu'on écoute un extrait d'un chanteur, on va voir si tu le reconnais. Tu l'as cité dans cette émission. C'est une reprise qui date, je crois, de 2009, quelque chose comme ça.
Ah, c'est Justin Bieber.
Exactement. Tout à fait.
Une voix.
Qui reprenait Sosik de Ne-Yo.
Ouais.
Et autre, il en faisait beaucoup à l'époque. Ils sont d'ailleurs toujours,
sur YouTube,
comme toi, sur sa chaîne YouTube.
Ouais.
Sur sa chaîne, vraiment, à 77 millions d'abonnés.
Ouais, c'est lunaire.
Et c'est génial. Et on a ces reprises-là de 2008-2009.
Avec une webcam.
Exactement, dans des qualités catastrophiques. Mais c'est le début, ça fait partie de son parcours. Autre reprise de Justin Bieber. Exceptionnel.
C'est tellement mignon.
C'est trop mignon. Donc là, c'est Justin Bieber qui reprend Justin Timberlake. Et puis d'autres personnes l'ont fait depuis, enfin, avant, après. Et Shawn Mendes a aussi commencé en faisant des covers. Et notamment, cette cover de qui? De Justin Bieber.
Ah ouais?
C'est une cover de As Long As You Love Me. Et c'est drôle parce que dans la vidéo, tu vois qu'il y a plein de fans de Justin Bieber, parce que tout le monde connaît les paroles par cœur. Et Shawn Mendes, c'est encore.
Il n'était pas connu encore.
Non, il est inconnu à l'époque. Ouais, ouais. Est-ce que ça fait partie, ça, de Justin Bieber, des pop stars aussi qui ont pu te marquer, ou pas plus que ça, aux années 2010?
J'étais marquée. Moi, je crois que j'étais au collège quand il avait la fameuse mèche, tu vois. C'était le début, il était tout
Baby,
jeune.
Baby, ce single-là.
Avec la veste violette, là, American Apparel, ou je sais plus quoi. Sa grande époque, mais moi j'étais plus une directioner.
Ok.
Et ouais, One Direction, surtout.
D'où Harry Styles encore aujourd'hui.
Je pense que petite obsession qui vient de là, tu vois.
Très bien.
Mais ouais.
Bon, Stilto est avec nous jusque 23h. Alors on l'a dit, t'as été nommé Victor de la musique, t'as rempli des énormes salles, et t'as aussi intégré la troupe des Enfoirés.
Ouais.
Et ça, dans le genre, cocher des cases mainstream, c'est quelque chose. Comment ça s'est passé, ça?
Comment ça s'est passé? J'étais en tournée et ma manageuse m'a dit... donc après, on est dans le tourbus après le concert, je me lave les dents, et ma manageuse, elle me dit, bah écoute...
Tu t'en souviens, tu te lavais les dents,
bien
tu te souviens exactement du moment.
Oui, oui. Elle me dit, bah écoute, on nous a appelés, et les Enfoirés proposent que t'intègres la troupe. Moi, je dis, ok, bah, je te dis demain, tu vois, la charte de concert, je sais pas. Et après, dans mon lit, je suis enfin, évidemment, à croire, je te dis demain. Alors, madame, stop. Et en fait, j'étais trop contente, déjà pour la cause, évidemment, mais aussi un peu égoïstement, en fait. Parce que moi, je regarde depuis que je suis toute petite avec mes parents, et qu'il y a ce truc un peu de tradition familiale. J'en parle dans une chanson quand je cite un peu des souvenirs d'enfance. Et le lendemain, donc on a dit oui directement, et à quel point on était honorés et fiers. Parce qu'encore une fois, c'est pas... Enfin, c'est ce que je te disais en off, du coup. C'est que j'ai pas vendu 300 000 albums. Genre, c'est tôt pour moi et c'est hyper agréable d'être invitée, en vrai. Et j'ai appelé ma maman et pour lui annoncer, je l'ai mise en haut-parleur pendant qu'on était en tournée, donc avec toute mon équipe. Elle était tellement... C'était joie et bonheur.
En fait, pour
plus que
parents,
quand je lui ai dit pour l'Olympia, en vrai. Hein, franchement, l'Olympia à côté, elle s'en fout. Quoi.
Là, elle se dit, elle a un vrai travail, ma fille, en fait. C'est dans ces moments-là.
Non, oh là là, mais tu te rends compte, elle était trop contente, ouais. Elle était choquée. Après, elle voulait tout savoir sur tout le monde et tout. Maman, arrête.
Mais justement, parce que tu dis oui, tu dis que tu as dit à ta manager, je te dis demain, mine de rien. Ça peut aussi faire peur parce que c'est une exposition. Alors, tu es exposée depuis longtemps, toi, mais c'est une exposition aussi à un autre public,
ouais,
peut-être aussi.
C'est ça.
Des personnes qui ne te connaissent pas du tout, pour certains ou certaines. Donc, est-ce qu'il y a Il peut y avoir aussi une appréhension sur qu'est-ce qu'on va dire de toi, les critiques éventuelles. Mine de rien, c'est aussi autre chose que ça entraîne.
C'est complètement ça, c'est un autre public. C'est une semaine entière avec 7 concerts. Là, c'était à Bercy. Moi, je n'ai jamais chanté à Bercy. Mmh. Moi, j'ai de plus en plus confiance en moi. Mais quand même, là, c'est pas rien. T'es avec des artistes qui font ça depuis 20 ans, qui font ce métier depuis longtemps. Ou alors, là, j'étais avec, par exemple, Elena et Marine, qui étaient nouvelles aussi. Mais elles ont fait la Starac, elles ont... une expérience télé qui est plus grosse que la mienne, tu vois.
Et proche, j'imagine, des enfoirés, en tout cas, dans la diffusion.
Ouf. Donc moi, j'étais un peu... j'étais impressionnée. Et puis même aussi, tu choisis pas les chansons que tu chantes, tu choisis pas ce que tu portes, etc. Mmh. Donc il y avait tout un truc où j'étais en mode, ok, c'est méga intense, mais c'est tellement beau. Et c'était pas mon public, mais les gens étaient trop heureux d'être là. Et j'ai senti la force, tu vois, à un moment... En fait, pour les enfoirés, quand tu fais le concert... pour les changements de décor, de scéno et tout, il y a ce qu'on appelle une interlude, et donc du coup chaque artiste vient chanter sa chanson pour que le public s'ennuie pas trop, parce qu'en fait pour le public c'est long, c'est 5h40 de show, tu vois, quand c'est pas monté.
C'est énorme.
Énorme. Et des fois il y en avait deux par jour, et en fait moi j'arrive, je fais Faut que tu m'aimes, parce que c'est la chanson que je reconnaisse.
Ouais.
Ils me connaissent pas ma tête, mais ils entendent Faut que tu m'aimes, ils sont là, ah c'est elle, tu sais, c'est drôle, et ils filment et tout. Et du coup moi je parle un peu dans le micro et je dis bon c'est ma première fois ici, et tout le monde a applaudi et tout, enfin c'est hyper accueillant, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise que quand c'est mon concert. Je sais que les gens ils vont rire à ce que je dis, truc machin, tu vois.
Forcément. Je propose qu'on écoute un morceau qui est sorti aujourd'hui même, un morceau de Georgia Smith.
Oh, aujourd'hui ?
Aujourd'hui.
Mais on est quel jour ?
Mercredi.
Lundi ?
Mercredi.
Mercredi. On est mercredi, pardon.
On est mercredi. Et c'est le tout nouveau morceau de Georgia Smith, qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui est extrait donc de la BO d'un film qui sort aujourd'hui. Georgia, on l'aime évidemment.
La chance, oui. Et moi, c'est mon rêve de faire la chanson d'un film.
Ah ouais ? Quel genre de film t'aimerais faire ?
Un film comme, par exemple, Les enfants vont bien. Tu vois, avec Camille Cotin. Un film français qui
est
un peu touchant et tout. Une musique où je mettrais la trompette.
Petit. T'as vraiment toute la DA. Donc Camille Cotin.
C'est un appel d'offre si jamais
un touchant et trompette. La DA est super. En attendant ça, en tout cas, on a le nouveau morceau de Georgia Smith, The Price of It All.
I'm not afraid to die today. I could have chose somebody else to love. Give me the gun, I'll take the blame and cover up your darker shade of blood. I'll feel the rain and turn the pain into cold, and that's just the price of. It's safe to say that I've ignored the warnings.
You're treacherous, impetuous, you're gorgeous. I'll take your hand and close my eyes. A parody of paradise in love. I fought the rain and turned the pain into cold. And that's just the
C'était Georgia Smith donc avec son tout nouveau morceau Price of It All.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et nous sommes avec Stilto qui a sorti donc le EP La fille qui a plus mal et c'est l'heure des recommandations. Et tu m'as envoyé deux recommandations.
Ouais, j'ai du mal à faire des choix. Bah, et tu sais pas à quel point ça fait 4 jours que je suis dessus en mode. J'hésite entre trop de trucs, je me suis trop pris le chou.
Bah, en tout cas, là, t'as donné deux choses, donc ça c'est clair. Une exposition déjà.
Oui.
Qui s'appelle Global Warming, je crois, de Martin Parr au Jeu de Paume. Oui. Tu es allé la voir, j'imagine.
Oui.
Pour qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui était bien?
Bah déjà, c'est un photographe que j'adore. Et bah, franchement, la raison est nulle. Juste, je l'adore. Et ouais, bah... il a fait une expo et je me suis dit, mais let's go. Il y a énormément de monde, juste. Je suis un premier. Il faut réserver. Mais, et tu fais la queue un peu dans l'expo. Enfin, vraiment, c'est bondé, mais c'est trop bien. Et j'ai adoré parce que il a un univers hyper coloré. Et il photographie vraiment la normale, enfin, la vraie vie. Tu vois, genre, en fait, je me demande même si, est-ce qu'il shoot en one shot ou est-ce qu'il fait des rafales, je sais pas. Mais il va prendre, je sais pas, il y a une photo que j'adore, c'est une vieille dame, je crois que c'est en Espagne, et tu vois vraiment les grand-mères espagnoles, les grand-mères du Sud qui sont toutes fripées parce qu'elles ont passé genre leur vie au soleil, et les petites lunettes genre UV pour bien bronzer comme ça. L'exposition, elle s'appelle Global Warming.
Ouais, exactement.
Et il parle... ouais, il met un peu en scène la folie humaine, en vrai. Je sais plus les pays exactement, j'ai plus les rêves de chaque photo, il y en a plus d'une centaine en vrai dans l'expo, mais...
Est-ce que t'es spécialement sensible à la photographie, justement, ou c'est vraiment lui? T'as des artistes comme ça un peu phares?
Non, franchement, c'est vraiment lui. Okay. Moi, j'adore ce qu'il fait, lui, et j'adore un peintre qui s'appelle David Hockney. Je le place parce que j'ai hésité, je voulais en parler aussi, mais c'est
le moment
actuel. David Hockney, c'est un peintre, il avait une expo à la Fondation Vuitton.
Ouais,
c'est ça le nom de l'endroit. C'était incroyable et il a 88 ans je crois et là et maintenant il peint même sur son iPad. Je trouve ça trop cool, un artiste qui vit avec son temps. Ouais, et le point en commun entre les deux, parce que évidemment je ne suis pas folle, je perds pas mon objectif de vue qui est de rencontrer Harry Styles, c'est que Martin Parr, il a photographié Harry Styles juste, j'espère que je suis pas en train de me tromper d'artiste, mais c'est ça, attends, oui, c'est
non,
ça.
Je crois que c'est confirmé,
juste avant de mourir, paix à son âme, et là les photos sont sorties récemment, il a photographié Harry genre en Italie et David Hockney, il a peint Harry Styles, il a fait un portrait au... Ils font plein d'autres choses géniales. Enfin, j'aimerais pas que les gens pensent que je regarde juste parce qu'il y a Harry. C'est un hasard, d'accord.
Tu l'appelles Harry déjà, donc je pense que les gens ont
Harry,
compris hein, que tu avais une relation avec lui, voilà, qui n'était pas normale.
C'est pas normal, non, non. Et ouais, j'adore ces deux artistes. Voilà.
Ok. Autre recommandation, un livre. Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Ouais.
Je crois d'ailleurs que le titre il est un peu plus long que ça, mais c'est Je voulais vivre.
C'est ça, c'est Je voulais vivre.
Non, parce
vivre.
Que je crois que Milady, il y a dans le titre où j'ai des bêtises.
Moi, mon livre, il y a juste écrit Je voulais vivre.
Bah, très bien, parfait. c'est moi qui dis des bêtises. Donc, Je voulais vivre.
Ouais.
Pourquoi ce livre?
Parce que c'est un livre que. En fait, il me reste 10 pages, voilà, c'est dit. Mais je suis en train de le terminer et j'en parle en fait à tout le monde autour de moi depuis 10 jours. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, j'en parlais à Mehdi. Et en fait, c'est. C'est un livre qui parle de Milady, donc dans Les Trois Mousquetaires, sachant que je n'ai pas lu Les Trois Mousquetaires, okay. Je connais parce que bah, Les Trois Mousquetaires, mais
j'ai même pas vu les films,
vraiment, et je ne l'ai pas lu. Et, mais en fait, tu peux totalement lire le livre sans enfin peut-être que moi je le lirai après, mais sans avoir commencé par Les Trois Mousquetaires. Mais en fait, c'est toute l'histoire de Milady, qui de base a un personnage un peu détestable, que tout le monde déteste, et en fait, je trouve qu'il y a un angle intéressant, c'est que... on vient un peu expliquer... en fait, je sais pas comment expliquer. C'est comme si t'as un pote qui dit « Mais elle, c'est mon ex, elle est folle. » Et c'est comme si là, l'autrice, elle va regarder pourquoi elle est folle. Attends, est-ce qu'elle est folle parce que...
ont dit ça.
Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que Milady, elle a vécu... je fais attention à pas spoiler parce que je suis la pro de ça. Mais elle a des énormes traumas. Et en fait, c'est aussi un truc de vengeance et d'autoprotection. Et que c'est pour ça qu'elle doit faire des trucs un peu horribles parfois. Et je trouvais ça cool de mettre en avant aussi une femme...
Ouais. Est-ce que tu lis? Parce que j'ai l'impression je vois de plus en plus, notamment de jeunes créateurs de contenu qui remettent la lecture en avant. Ce qui est, alors qu'on avait l'impression que, les jeunes ne lisent plus, et c'est un peu un lieu commun. Ou globalement même, les gens lisent moins, de toute façon. Et que j'ai le sentiment que c'est de plus en plus... En tout cas, qu'il y a des gens qui font cet effort-là. Je pense à notamment un créateur de contenu comme Jérôme Mons, qui en parle beaucoup, etc. Enfin, que ça devient...
Oui, Maxime Gadji, il a fait genre un club de lecture.
Exactement, aussi. Qu'il y a un truc qui devient presque cool. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as toujours un peu
moi,
fait?
Moi, j'ai toujours lu, j'ai toujours partagé, mais de tout. Hein. Tu vois, là, je te parle ça, je peux partager. Moi, il y a une autrice que j'adore, c'est Virginie Grimaldi, qui fait un livre par an hyper feel-good. Enfin, feel-good, je sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais moi, j'adore. Et je lis vraiment de tout, tout le temps, des romans policiers. Et encore, j'ai l'impression que... Tu vois, là, moi, je lis un ou deux livres par mois, et quand je vois mes copines...
C'est pas mal,
je me
déjà.
Dis que je suis une merde, genre, elles lisent tellement... des fois, je suis en mode, mais... Quand avez-vous le temps
Non, c'est pas mal. En tout cas, tu lis, t'es une lectrice.
Moi, j'aime bien.
Silto, c'est l'heure...
Quoi ?
...de la question qui tue.
J'ai peur. Il y a un générique.
Il y a un générique et une mise en scène. Normalement, on baisse la lumière et tout. C'est pas vrai.
J'allais dire, baisser la lumière.
Non, c'est pas vrai, on fait pas ça.
Attends, mais ça fait peur ?
Moi, je pense que j'ai déjà ta réponse.
Ok.
Pour toi.
Oui. Ah non, j'ai peur.
Ta pop star préférée. Voilà, c'est tout.
Non, c'est pas Harry.
Ah bah j'ai pas ta réponse alors.
C'est Olivia. Olivia Dean.
Olivia Dean.
Ouais.
Ah, parce qu'on en parlait en antenne d'Olivia.
Après j'ai du mal à faire un choix mais non, j'écoute. En fait Harry c'est parce que c'est un ami de longue date, tu vois.
Oui, c'est ça. Mais il Olivia... t'a accompagné.
Ouais, voilà, c'est ça. Olivia, j'ai une tasse Harry Styles où je bois mon café tous les matins, donc il y a un petit attachement.
Oui, il y a un truc qui fait partie donc ton quotidien en fait.
On partage notre vie quoi. C'est mon coloc. Mais non, Olivia Dean c'est une artiste qui m'inspire beaucoup et que j'écoute avec Ben Mazuet, c'est l'artiste que j'écoute le plus et ça en dit beaucoup.
Bon, je pense qu'on écoute un extrait d'Olivia Dean alors.
Ouais.
Écoutons un extrait d'Olivia Dean. Ah, vous n'avez pas les images, vous écoutez l'émission, sachez que Stilto est en train de chanter là.
Là, je suis du playback.
Tu fais du playback. Tu pourrais chanter par cœur le morceau. Je vais pas te demander.
Je parle hyper mal anglais. Non, vaut mieux pas que tu me demandes parce que je vais faire du yaourt, ça va être hyper humiliant.
Très bien. Bon, en tout cas, c'est une artiste que t'aimes beaucoup.
J'adore.
Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu une pop star.
C'est
vrai,
une
maintenant,
pop star.
En
c'est
un
énorme.
An, il s'est passé quelque chose de complètement
c'est
dingue. Silto, merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment,
beaucoup.
C'était un plaisir
c'est
de t'avoir.
Trop chouette.
Pareil, plaisir partagé. On rappelle donc que le projet La fille qui a plus mal est disponible partout. Allez l'écouter, le streamer. Et merci à toi et à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission,
merci.
Qui était préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et Selim Guéribi. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous aurons le grand JD dans l'émission.
Oh, je
on l'aime tous.
Oh là là.
Il vient de la présenter. T'as
tu
vu
ferai un bisou de ma part.
Je lui ferai un bisou avec grand plaisir. À demain avec le grand JD.